Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Chantal Laureau.
Bonjour, bienvenue dans C'est pas du vent. Notre invité est fasciné par les grands singes depuis qu'il est enfant. À 18 ans, son bac en poche, il quitte la France pour l'Asie pour voir des gibbons en liberté. C'est en Indonésie qu'il s'installe. Il y crée en 1998 l'association Kalawet pour s'occuper des gibbons menacés par le braconnage et la déforestation. Un combat pour l'environnement et le vivant qui passe aujourd'hui par la protection des forêts, objet de toutes les convoitises, sans égard pour la biodiversité.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Chani.
Bonjour.
On est ravis de vous recevoir à l'occasion de votre passage en France pour la sortie de votre nouveau livre, Hâte d'être à demain pour continuer à sauver, paru aux presses du Midi. Alors d'abord, pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore, Aurélien Brûlé, c'est votre vrai nom.
Oui.
Comment êtes-vous devenu Chani et pourquoi ce surnom ?
Chani, c'est lié à mon premier voyage en Asie. C'était en Thaïlande à l'époque, où j'étais déjà, je me rendais en Asie pour aller voir les gibbons, après les avoir observés en parc zoologique pendant de nombreuses années. C'était la première fois que je les voyais à l'état sauvage. Et les gens en Thaïlande n'arrivaient pas à prononcer mon prénom. Aurélien, c'est trop compliqué. Et du coup, comme je passais mon temps à chercher les gibbons, ils m'ont appelé gibbon, et c'est Chani en thaïlandais. Et quand j'ai continué ma route en Asie, en Indonésie, même problème. Alors je leur ai dit, appelez-moi Chani, ça sera plus simple.
Et votre association Kalawet signifie également gibbon.
Oui, mais dans un dialecte dayak, donc une des langues de Bornéo.
Alors vous vivez en famille au cœur de la jungle indonésienne. J'aimerais bien que vous nous lisiez ce passage de votre livre, histoire de mettre des images sur vos mots.
Je regarde les macaques de la fenêtre de mon bureau. J'entends les nazis râler avec des sons de trompette au milieu de la nuit. Le soir, sur les marches de la terrasse, nous attendons que l'écureuil rouge, géant et volant, s'élance de la canopée. Il dort la journée dans une plante parasite collée à un arbre émergent. Il plane devant nous presque tous les soirs. Les enfants l'ont appelé Madou. Il y a également Bin Bin, un binturon qui dort lui aussi la journée devant la maison. Il a ses branches favorites et il y fait son apparition tous les deux ou trois mois. J'entends les gibbons sauvages et bien sûr ceux de Kalawet qui ne sont pas loin. Auparavant, je devais toujours choisir entre le confort et les camps en forêt et la famille. Aujourd'hui, c'est terminé. Les enfants grandissent et voleront bientôt dans leurs propres ailes. Andrew a 18 ans, mais cette qualité de vie, nos aventures, seront à jamais dans leur ADN.
Alors en vous écoutant, Chani, on imagine le paradis sur Terre, mais c'est un paradis fragile. Comment votre travail pour sauver les gibbons et les autres animaux menacés par les braconniers et par la déforestation est-il devenu un combat pour protéger la biodiversité ?
Oui, c'est vrai que c'est les gibbons et ma passion de gamin pour les gibbons qui m'ont emmené en Indonésie. Mais si on veut être efficace, il faut sauver l'ensemble, leur habitat et donc du coup tous les autres animaux et la biodiversité dans son ensemble. Mais c'est vrai que même à Kalawet et pendant ces 24 ans passés en Indonésie, ça a été un processus dans ma démarche lié à une frustration de voir ces animaux qui arrivent dans nos centres de soins. Et j'ai cette impression que quand ils arrivent dans nos centres de soins, c'est déjà trop tard, parce que c'est extrêmement compliqué de les remettre dans la nature. Et que les sauver quand ils sont encore dans les arbres, là, on fait vraiment la différence et on arrive enfin à temps. D'où l'idée de protéger la biodiversité dans son ensemble.
L'Indonésie est toujours le pays au monde où la déforestation va le plus vite ?
Alors non, puisque la déforestation a ralenti en Indonésie cette année. L'année dernière, on a été l'année la plus faible en taux de déforestation depuis ces 20 dernières années en Indonésie.
Grâce à des lois ?
Alors, grâce à plusieurs phénomènes. Le premier, c'est que déjà, l'industrie de l'huile de palme a déjà converti les zones qui les intéressaient dans beaucoup d'endroits, notamment à Sumatra et à Bornéo, c'est-à-dire les zones de plaine. Et c'est décalé vers la Papouasie. Donc, ils ont déjà fait le boulot, en fait. Ensuite, on a eu la Niña ces deux dernières années. Donc, il n'y a plus énormément, on n'a pas eu d'incendie. Et ça, effectivement, ça a aidé aussi à lutter contre la déforestation. Le problème, c'est qu'on a El Niño qui va pointer le bout de son nez en 2023-2024. Donc là, on peut s'attendre de nouveau à des incendies et à une déforestation galopante à nouveau. Donc il faut rester vigilant sur ces chiffres, c'est des signes encourageants. Mais il faut aussi être lucide pourquoi ça se ralentit, quand le job a déjà été fait, quand on a déjà déforesté. Mais c'est la réalité du terrain. Aujourd'hui, ce qui se passe en Amazonie, probablement, est redevenu la première priorité en termes de déforestation.
Et est-ce que vous pouvez nous raconter comment Bornéo a changé depuis votre arrivée il y a 24 ans ?
Ah, le paysage a complètement changé, surtout dans ces zones de plaine qui ont subi une déforestation massive pour l'industrie de l'huile de palme. Quand moi je suis arrivé, c'était encore l'exploitation forestière et c'était un moindre mal comparé à l'industrie de l'huile de palme, puisque pour le bois, on va faire des abattages sélectifs, mais il va rester une forêt certes dégradée, mais qui est encore bien là, alors qu'avec l'industrie de l'huile de palme, les monocultures, il reste plus rien. Donc aujourd'hui, on a des forêts, pas une grande forêt à Bornéo, on a des forêts, la forêt était fragmentée. Et il faut se battre pour que justement ces fragments de forêt, alors on parle à chaque fois de milliers d'hectares, hein, mais pour que ces fragments de forêt restent indemnes, parce que c'est le dernier refuge pour la biodiversité et pour les animaux qui ont justement fui la déforestation. Donc oui, l'Indonésie est certainement l'un des pays qui a le plus souffert de la déforestation.
Pourquoi est-ce que ça vous agace quand on dit la forêt indonésienne, comme on dit aussi la forêt amazonienne?
Mais parce que ça ne correspond pas du tout à une situation de terrain. C'est entretenir le fantasme d'une forêt qui n'appartient à personne, la forêt amazonienne, la forêt indonésienne. Sur le terrain, c'est bien plus complexe que ça. Même avant que la forêt, justement, dans sa globalité, la végétation, avant qu'elle soit fragmentée par les activités humaines, il y avait plein d'écosystèmes différents. En Indonésie, vous aurez les forêts de tourbières, vous avez les forêts d'altitude, et ce sont des problématiques, quand on essaie de les protéger, qui sont uniques à chacun de ces écosystèmes. Et aujourd'hui, quelqu'un de terrain va vous parler de forêts en particulier, c'est dans des zones du cadastre, du plan d'occupation des sols, des forêts bien identifiées, de communes, de provinces. Et c'est ça la réalité de quelqu'un qui travaille concrètement sur le terrain. Quelqu'un qui va maintenir l'argument de forêt ou de la forêt indonésienne, la forêt de Bornéo, c'est probablement quelqu'un qui ne travaille pas sur le terrain.
Alors vous avez donc décidé de sauver dorénavant les singes pendant qu'ils sont encore dans les arbres. C'est pour cela qu'il est nécessaire d'acheter des parcelles de forêt.
Entre autres, en tout cas, il faut avoir les outils pour avoir une démarche avec effet immédiat. Donc quand le cadastre le permet, il y a des zones dans le plan d'occupation des sols indonésiens où on peut, comme ça, du jour au lendemain, négocier des terrains et mettre la main dessus. Comment j'en suis arrivé là? Simplement parce qu'il y a des propriétaires terriens qui font la même chose, mais pour déforester, pour avoir leur propre plantation. Si eux, ils ont ces outils-là, pourquoi nous, on ne peut pas les utiliser, mais pour protéger? L'idée, c'est vraiment d'utiliser les outils des acteurs de la déforestation, mais pour protéger. L'un d'entre eux, c'est évidemment le foncier, mais on peut aussi penser à des concessions, on peut aussi penser... Mais en tout cas, il faut être extrêmement pragmatique. Et c'est là la clé.
Donc, l'idée, c'est de faire de ces poches de forêt des réserves protégées.
Exactement.
Où il sera interdit de couper les arbres et où la chasse aussi sera interdite.
Voilà, c'est des zones où on interdit simplement la chasse et le bûcheronnage parce que justement tous les animaux ont trouvé refuge dans ces endroits et que même une chasse traditionnelle amènerait à l'extinction des animaux dans ces zones. Et c'est très bien compris par les populations locales, mais les gens ont toujours accès à leur terrain pour les activités traditionnelles comme la cueillette des fruits, le rotin, vous savez, c'est une liane, il y a des jardins de rotin dans la forêt, les EVA qui continuent à être saignés dans la forêt. Donc c'est fait en partenariat avec les gens. Nous, on ne veut pas être propriétaires. On veut simplement avoir la légitimité de pouvoir protéger ces zones parce qu'encore une fois, ce sont des zones qui sont menacées à très court terme. Donc il n'y a qu'une une approche pragmatique et philanthropique aussi avec les gens qui peut sauver ces zones-là.
Donc c'est ce que vous appelez la conservation active à effet immédiat.
Exactement. Active parce qu'il y a trop d'acteurs de conservation qui théorisent beaucoup, qui nous sensibilisent. Il y a des lanceurs d'alerte un peu de partout. Toutes les grandes ONG parlent de ça. Mais pourquoi on les voit si peu sur le terrain avec des approches pragmatiques? Et c'est ce qui manque cruellement. Donc c'est ce que j'appelle moi la conservation active. C'est quand on se retrousse les manches et qu'on fait taire les tronçonneuses et les fusils.
Et pour surveiller les réserves que vous créez, vous avez recruté des gardes qui patrouillent à cheval, c'est
ça ? Bien sûr, obtenir la légitimité de protéger une zone, c'est quelque chose. Mais à partir du premier jour où on a cette responsabilité-là, on a des patrouilles équestres pour ne pas être dérangé les animaux, on ne veut pas être motorisé. Des patrouilles aussi à pied dans certaines zones. Et puis on a des patrouilles aériennes en ULM, en paramoteur, on est 3 pilotes aujourd'hui, pour justement détecter d'éventuelles coupes, d'éventuelles activités en périphérie de nos réserves, qui pourrait impacter ensuite la pérennité de nos réserves.
Combien de personnes au total travaillent aujourd'hui pour votre association, Calaouette?
Il y a 82 personnes sur le terrain, tous salariés, donc des salariés indonésiens. Ça va des vétérinaires dans nos centres de soins, aux gardes, aux soigneurs, et voilà, donc aux pilotes. Professionnalisés, parce qu'on a besoin d'être efficaces. Donc c'est vrai qu'on gère, je ne vais pas dire comme une entreprise, mais presque. C'est-à-dire qu'on a besoin d'efficacité et de pragmatisme. Donc c'est le meilleur moyen d'arriver à avoir ces résultats-là.
Chanier, je vous propose maintenant de changer de continent et de partir pour l'Afrique, où là aussi certaines espèces sont menacées par les appétits industriels ou financiers des hommes. C'est le cas des gorilles des plaines de l'ouest du Gabon, qui vivent dans une forêt de 600 000 hectares exploitée pour le bois d'Okoumé. Le programme de conservation des gorilles de Bambidi les étudie pour voir s'ils s'adaptent à une forêt devenue commerciale. L'objectif, c'est aussi de sensibiliser les communautés locales pour limiter, comme vous, le braconnage. Yves-Laurent Goma est allé à la rencontre de Max Urderburg, le responsable du programme et actuel président de l'association Precious Nature of Gorillas.
Monsieur, bonjour et bienvenue à bord de cet avion de la compagnie Nouvelle Aérienne du Gabon. Il fait beau sur la route et nous vous souhaitons un agréable voyage. Merci.
Le monomoteur vient de décoller de l'aéroport Léomba de Libreville, destination Bambidi, une concession forestière de 600 000 hectares. C'est dans ce milieu naturel perturbé par le bruit des tronçonneuses et caterpillars que nous avons rendez-vous avec Max. Journaliste photographe, l'homme a été séduit par le sort de ces animaux menacés du fait de l'exploitation et du braconnage.
Bienvenue à Bambidi, mesdames et messieurs, souhaitons un agréable séjour. Merci.
Aérodrome de Bambidi, donc c'est le terrain d'aviation, c'est le lieu d'arrivée de beaucoup de personnes pour une première. Moi je suis arrivé ici il y a 13 ans.
Donc, ça fait 13 ans que vous êtes au cœur de la forêt.
Ouais, tout à fait.
Et l'aventure à la rencontre des gorilles de Bambidi commence. Mmh. 6h15, est-ce que nous ne sommes pas en retard?
Si, on est en retard, oui, mais on est toujours en retard, hein, surtout pour les gorilles qui quand même commencent la journée très tôt. Hein, très tôt. Et là, normalement, bon, là, on peut les surprendre puisque la clairière est assez éloignée de leur site de nidification. Donc, bon, ils mettent toujours un peu de temps à arriver à la clairière, c'est ce que j'ai pu remarquer, puisque les zones autour sont très claires et il y a très peu de marrons tassés qui leur servent surtout à faire des nids.
Et pourquoi on s'arrête?
Donc là, on est arrivé sur l'entrée de la piste qui mène à la clairière. Donc là, on va se préparer et on va commencer à marcher doucement parce que on peut croiser des gorilles assez près de la piste, là, comme c'est calme aujourd'hui. Donc voilà, donc on va se préparer et puis on va commencer à marcher doucement et surtout de ne pas se parler.
Et finalement, oui, on constate aussi qu'il y a le silence de la forêt. Hein.
Oui, là, oui, voilà les tous les insectes déjà qu'on entend, et puis les oiseaux qui commencent là. C'est le matin, ils sont très, très actifs.
J'ai senti que notre 4x4 a déchiré un peu ce silence.
Oui, ça c'est sûr, on n'est pas très discrets nous. Mais bon, ils ont l'habitude, ils me connaissent maintenant, donc normalement il n'y aura pas de soucis. S'ils sont là, ils sont là. Donc,
Bon alors, qu'est-ce qu'on doit faire avant de rentrer dans la piste?
Donc, ce qu'il faut déjà, toi, il faudrait que tu mettes les bottes, parce que ça va être à mon avis très, très, très humide et on peut passer les marécages. Et donc moi je vais prendre mon sac à dos avec mon matériel de grimpe, parce que je vais aller voir ma plateforme un peu, comme ça fait 15 jours que je l'ai laissé sans voir dans quel état l'été, après les grosses pluies. Donc moi je vais monter à l'arbre après, et puis après on va faire un petit circuit et voir aussi le piège vidéo, ce qu'il a pu capter comme image en mon absence.
On y va.
Arriver au périmètre de la clairière, donc là c'est une zone un peu marécageuse où les gorilles viennent manger les marrons tassés là. Donc à partir de là vraiment on peut croiser des groupes qui viennent manger. Et là il nous reste encore à peu près 10 minutes de marche pour arriver sur la clairière principale qui est un peu plus au sud. Donc là on va aller doucement.
Et là il y a comme un trou de baignade, ça.
Bah là, enfin, quelques éléphants fréquentent la forêt, donc là on peut voir un endroit, une place où ils sont passés, où ils ont un peu comme ça mangé.
On arrive devant la clairière. Max monte grâce à un dispositif sophistiqué sur un gros arbre qui surplombe la clairière. Je reste seul sous le bois, pas vraiment seul,
puisque les insectes et oiseaux sont si proches de moi. Au bout d'une demi-heure, Max descend de son poste d'observation. Il n'a rien vu. Pas de gorille. Mais dans sa poche, une carte mémoire d'une caméra de surveillance. Alors donc, qu'est-ce que ça donne? Tu as récupéré les cartes?
Oui, j'ai récupéré la carte. Donc apparemment, il y a eu presque une heure d'enregistrement. Mais ça ne veut pas dire qu'on a une heure d'enregistrement de gorille. Hein. C'est possible qu'il y ait énormément d'insectes qui passent, parce qu'un insecte peut déclencher le piège, ou alors d'autres animaux. Donc on va voir ça sur l'ordinateur à la base vie à Bambidi.
Voilà. Les images de la carte ne suffisent pas. Nous voulons vivre en direct, voir, admirer ces grands singes dont les faits et gestes sont si proches de l'homme.
Les gorilles quand même sont un peu gênés parce qu'ils n'utilisent pas du tout l'environnement de la même façon. L'année dernière, cette clairière avait une configuration complètement différente. Là maintenant, c'est devenu assez boueux. Les éléphants font quand même pas mal de ménage et écrasent beaucoup la végétation.
Soudain, on est surpris par une charge. Un gorille. Un vrai. Il charge. Je suis terrorisé. Mon micro couché au sol, je m'interroge s'il enregistre. Max tente de me dire quelque chose, mais je ne comprends rien. La scène dure. 3, 4, voire 5 minutes. Puis le monstre et sa famille se retirent tout doucement.
C'était ne pas bouger, attendre la fin de la... Il nous a mis en garde plusieurs fois. Donc après, il a amené tout son groupe plus loin. Donc voilà, donc ça c'est une rencontre un peu difficile, mais c'est souvent comme ça que ça commence. Voilà.
Et c'est ça les rencontres dangereuses, hein?
Ben dangereuses non, parce que si à partir du moment où on fait comme on a fait là, c'est-à-dire qu'on s'est... Tout de suite on a entendu les bruits, on s'est accroupi, on a attendu. C'est, de toute façon, les gorilles, on s'avance pas vers eux. C'est eux qui viennent ou qui viennent pas. Donc là, voilà, on risquait rien. Il y a aucun souci. Sauf que le loup argenté nous a vus et peut-être les odeurs. Et on a quand même eu de la chance.
Ok, merci. Donc, on peut donc retourner dans la joie au village, hein?
Ah oui, dans la joie. Oui, moi, c'est rare et c'est exceptionnel hein, ce qu'on vit ici.
Votre réaction, Chani, à ce reportage au Gabon d'Yves Laurent Goma, aussi effrayé que subjugué, on l'a entendu, par les gorilles de Bambidi?
Ah, c'est génial, et c'est vrai que moi, du coup, je peux imaginer, parce que j'ai un peu les mêmes rencontres dans la forêt avec les orangs-outans quand ils sont au sol, les grands mâles qui font 120 kilos, et voilà, c'est toujours des instants magiques, on revit ça des dizaines et des dizaines de fois, mais à chaque fois, c'est comme si c'était la première fois. C'est énormément d'émotions, donc je peux comprendre, c'est vrai, quand on emmène quelqu'un ou quand on voit ce regard et les gens qui vivent ça pour la première fois, c'est juste extraordinaire, quoi.
Vous aussi, comme Max, vous installez des pièges vidéo
bien
pour
sûr.
Savoir ce qui se passe dans
bien
les
sûr.
Réserves.
On a des pièges photographiques dans toutes les réserves. À Sumatra, on y voit le tigre passer, on suit les individus qui sont revenus dans notre réserve. À Bornéo, pour les orangs-outans, justement, qui passent au sol sur des endroits bien précis, on suit les populations, on identifie les espèces. Et parfois, on peut aussi avoir un humain qui passe et qui n'a pas forcément de bonnes intentions. Donc nous, on diffuse aussi autour de nous, comme quoi dans la forêt, il y a plein de caméras, beaucoup plus que la réalité, pour dire attention, parce que voilà, on a des caméras qui filment tout, quoi.
Alors dans le reportage, on entendait Max parler de la cohabitation parfois compliquée entre gorilles et éléphants. Dans votre livre, vous racontez que vous avez également voyagé en Afrique et vous y avez appris que les éléphants sont capables de différencier les dialectes en entendant les hommes parler. C'est incroyable.
C'est incroyable et j'ai appris énormément de choses pendant ce voyage et ce tournage. Et oui, donc capable d'identifier des populations humaines qui ne représentent pas un danger pour les éléphants parce que justement cette ethnie-là n'a pas la l'habitude de chasser les éléphants, et une autre où il faut faire beaucoup plus attention, et des éléphants aussi qui avaient été aidés par les humains, qui étaient capables d'emmener leurs congénères à l'association, parce que le congénère était blessé avec une lance empoisonnée d'un braconnier, et il était entouré par, comme ça, des éléphants qui, eux, avaient déjà été aidés par l'assaut. Et c'est juste, c'est des choses que si on m'avait expliqué, j'aurais peut-être pas forcément cru, en disant, bon, il y a beaucoup d'anthropomorphisme, et pour l'avoir vécu, j'étais vraiment sur les fesses, pour tout vous dire.
Est-ce que vous avez essayé de savoir si les grands singes étaient capables, eux aussi, de faire cette différence entre les langues ou les dialectes ?
Je sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. En tout cas, on voit de la surprise entre un Shani occidental et un Dayak. On voit que le comportement n'est pas le même, mais ils sont capables de tirer des conclusions. Par exemple, un humain, en fait, les animaux, de manière générale, et surtout les grands singes, ont une idée de l'humain. C'est-à-dire que l'humain, il est bipède, il a le visage sans poils, il est au sol, jamais dans les arbres. Et dès qu'on brouille ça, la définition de l'humain pour ces animaux, eh bien, on voit des animaux qui s'interrogent. Et du coup, on gagne de précieuses secondes et minutes pour les observer. Et c'est quelque chose dont je m'amuse beaucoup quand je monte aux arbres, justement, où j'ai des singes qui ne comprennent pas, parce que ce n'est pas la place d'un humain, justement, d'être en hauteur.
Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous lire cet autre extrait de votre livre ?
Je reste silencieux au sol. Il faut que la nature m'oublie. C'est la raison pour laquelle j'aime être seul en forêt. J'aime me sentir vulnérable. Lorsque je m'enfonce dans la jungle, très souvent c'est pour y dormir et y rester à l'affût. Les gens m'imaginent crapahuter de longues heures, cela m'arrive aussi. Alors qu'en réalité, je roupille contre un tronc. C'est dans ces instants que les rencontres sont les plus précieuses. Quand les ours, les orang-outans et les gibbons ne savent pas que je suis là. Je joue dans la jungle comme un grand gamin. Lorsque les animaux m'aperçoivent en premier et qu'ils s'enfuient, ils marquent un point. Lorsque je les observe à leur insu, c'est moi qui marque un point.
Voilà, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure quand vous essayez de semer le doute dans l'esprit des animaux. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous sentir en danger dans la jungle ?
Bien sûr. Et je le dis d'ailleurs dans l'extrait, ce côté vulnérable fait qu'on est... Du coup, tous nos sens sont en éveil. Et c'est là où on fait vraiment partie de la forêt. En tout cas, dans mon sens, on en fait partie, on est partie intégrante. On peut se sentir une proie, on peut... Et évidemment, moi, les grandes peurs en forêt, c'est surtout lors des orages, lorsqu'il y a beaucoup de vent. Parce que le principal risque en forêt, c'est de se prendre une branche sur la tête. Il y a beaucoup plus de Dayak à Bornéo qui meurent en forêt à cause justement d'une branche ou d'un arbre que de l'attaque d'un animal sauvage. Donc oui, évidemment, ça m'est arrivé dans mon hamac de me réveiller au milieu de la nuit et de commencer à regarder en haut, voilà, de me poser des questions. Et c'est normal, c'est ce côté vulnérable, moi, qui me plaît, me sentir, voilà, être obligé d'être tous les sens en éveil comme ça pour anticiper les situations et se sentir un peu animal. Et c'est ce que j'adore.
Monkey Man, Toots and the Metal sur RFI dans C'est pas du vent. Nous sommes toujours en compagnie de Shani, infatigable défenseur de l'environnement en Indonésie, amoureux des grands singes et des gibbons en particulier. Shani qui publie « Hâte d'être à demain pour continuer à sauver », un livre édité par les presses du Midi. Mais on va prendre à présent la direction du Congo. Nous sommes sur les plateaux Bateke à 160 km de Brazzaville, dans la réserve de Lesioluna. 173 000 hectares de savane et de forêt accueillent depuis 1994 des bébés gorilles victimes du braconnage. C'est le premier lieu en Afrique à avoir tenté cette expérience. Pour comprendre comment s'organise l'accueil des bébés jusqu'à la réintroduction en milieu naturel, Anne-Cécile Bras et François Porcheron ont rencontré Florent Icoli, le conservateur de la réserve.
Ici, c'est le site du Bubikro où se passe l'habituation des bébés victimes du braconnage. Dans ce site, il y a la prise en charge d'abord de ces bébés. Quand ils arrivent, ils sont très déprimés, déshydratés, en très piteux état. Mais avec l'expertise de nos collaborateurs, de nos nurses et aussi de vétérinaires, on arrive à sauver les petits. Et une fois qu'ils sont sauvés, après avoir suivi toutes les étapes des examens médicaux et la quarantaine, se passe maintenant la phase d'habituation en milieu naturel. Et c'est donc ici, au site de Lesio, que ça se passe.
Quand on dit que ce sont des bébés victimes du braconnage, c'est-à-dire que leurs parents ont été tués et que eux, du coup, se retrouvent orphelins?
Naturellement, parce que aucun grand singe, on ne peut pas ramasser un chimpanzé dans la rue ou bien un gorille. Les grands singes sont grégaires, ils vivent comme les humains, donc ils ne peuvent pas abandonner leur progéniture. Et donc les braconniers, quand ils vont, ils abattent les géniteurs, d'abord le dos argenté, celui qui défend la famille, et puis les femelles, avant de récupérer le petit gorillon. Et donc, il faut exterminer tout le groupe pour récupérer un bébé gorille. Sinon, s'il y a même un rescapé de gorille, il va prendre le bébé avec lui et partir avec. Donc, c'est un vrai désastre qui se passe. C'est malheureux, mais c'est ça la réalité.
Je vois qu'une des nurses nous a rejoint. Vous pouvez nous présenter ?
C'est Catherine Missilou. C'est la doyenne des nurses qui a beaucoup d'expérience sur le sauvetage, disons le sauvetage des bébés gorilles orphelins.
Oui. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous travaillez ici depuis combien de temps?
Je travaille avec les bébés gorilles depuis 22. Ça fait déjà 22 ans que je suis ici.
Oh, c'est une passion alors?
Vraiment.
Quelle est votre relation avec ces bébés?
Elle est toute particulière. Je m'occupe des bébés gorilles orphelins. Il y a de ces moments quand ils arrivent, ils sont déshydratés, je m'occupe d'elles, je fais tout mon mieux pour leur entretien.
Leur faites des câlins, vous leur donnez beaucoup d'affection, comme une vraie maman?
Vraiment, l'affection entre les bébés humains et les bébés gorilles, pour moi, les bébés gorilles sont super.
Pourquoi ils sont super?
Mais tellement que je suis habituée avec eux et je passe plus de temps avec les bébés gorilles que mes propres enfants. Donc vraiment, l'amour est tellement, tellement trop.
Ils vous le rendent, cet amour?
Mais oui. Parce que y a une génération que j'ai élevée. Quand elle a mis bas, dès que je suis allée la rendre visite, elle est venue vers moi avec le bébé pour me montrer le bébé. Et j'étais très contente.
Vous êtes émue encore en parlant aujourd'hui?
En tout cas, trop même.
Vous faites partie de la famille en fait?
Vraiment, de la famille des gorilles, bien que naturellement je ne suis pas gorille, mais c'est ça.
Et alors là, par exemple, ceux dont vous vous occupez en ce moment vont être réintroduits d'ici la fin de l'année. Pour vous, ça doit être difficile de les voir partir?
Bon, mais ça fait quand même mal. Mais l'objectif est tel, on n'y peut rien. Parce qu'on élève, c'est comme un bébé humain, un enfant, une fille. Vous l'élevez quand elle grandit, elle doit se marier. Bon, c'est le cas des gorilles. On élève, ils sont d'abord bébés, ils ont grandi. Bon, ils doivent repartir en forêt. C'est leur nature.
Et est-ce qu'il y a des bébés que vous n'avez pas réussi à sauver?
Oui, il y en a beaucoup parce qu'il y a de ces bébés qui arrivent tellement fatigués, déshydratés. Donc on essaie de faire un peu l'essentiel et puis ça ne marche pas.
Ça devait être très difficile pour quelqu'un qui fait votre travail de ne pas réussir à sauver un bébé.
C'est très difficile parce qu'il ne sait pas vraiment comment entretenir un bébé orphelin, un bébé gorille orphelin. C'est très difficile parce qu'ils vont le maltraiter, lui donner du n'importe quoi et puis quand il sera stressé, finalement c'est la mort.
Finalement c'est la mort.
Shani, on entend l'attachement de la nurse Catherine pour les gorilles dont elle s'est occupée. Même si ça fait mal, dit-elle, l'objectif c'est de les faire repartir dans la forêt. Vous, à Sumatra et à Bornéo, ce qui vous fait mal, c'est de ne plus pouvoir remettre les gibbons dans leur milieu naturel, ou en tout cas ça devient de plus en plus difficile.
Oui, tout à fait. De toute façon, les grands singes, de manière générale, c'est extrêmement compliqué. Un programme de réhabilitation de ces grands singes qui passent autant de temps dans la nature avec leurs parents. Un gibbon, ça va être 7 ans, un orang-outan ça va être 12 ans, un gorille à peu près la même chose. Et donc ils doivent apprendre énormément de choses de leurs parents pour pouvoir survivre dans la forêt. Des mères de substitution, on peut essayer de faire au mieux, mais on n'arrivera jamais à faire comme une maman. Et donc c'est extrêmement compliqué. Et en plus, les gibbons sont extrêmement territoriaux et monogames. Donc du coup, ils vivent qu'en couple sur des territoires où ils n'acceptent aucun autre gibbon. Donc du coup, extrêmement compliqué de les relâcher dans une forêt où il y a déjà des gibbons. Ils risqueraient de se faire tuer par les gibbons déjà établis dans ces territoires. C'est pour ça qu'ils chantent tous les matins. C'est plus facile avec des animaux qui sont sociaux. Des groupes de gorilles, par exemple, puisque ce sont des singes qui forment des groupes, ils vont pouvoir s'entraider. Les plus doués vont apprendre par mimétisme à ceux qui le sont moins, etc. Donc nous, on le fait avec beaucoup d'autres espèces de singes en Indonésie qu'on arrive à relâcher plutôt facilement parce que justement, ils ne sont pas territoriaux, ils ne vont pas défendre un territoire par rapport aux autres de leur espèce. Et en plus, ils vivent en groupe. Mais de manière générale, oui, c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas voir ces programmes de réhabilitation comme Calaouette, comme tous ceux qui existent, comme des solutions. D'abord, on ne reçoit dans nos centres qu'une infime minorité de ces animaux qui sont victimes des braconniers et de la déforestation.
Vous avez combien d'animaux dans vos centres ?
Aujourd'hui, plus de 400, si on parle que des gibbons. Et ensuite, on est amené à recevoir aussi bien des crocodiles, des ours, tous les animaux qu'on trouve dans la forêt. Donc tous ces animaux, c'est une infime minorité comparé à tout ce qui est anéanti lors de la déforestation. C'est pour ça qu'il ne faut pas voir ces centres de réhabilitation ou de soins comme des solutions. La solution, c'est vraiment de les sauver quand ils sont encore dans les arbres.
Donc acheter les fameuses parcelles de forêt.
Donc acheter, en tout cas faire des réserves.
Vous avez réussi à sécuriser, donc à acheter, au nom de Calaouette, combien d'hectares à Doulane ?
À Doulane, donc une de nos réserves, 732 sur une forêt qui fait 1500 hectares. Mais sur la totalité des réserves de Calaouette aujourd'hui, on est à près de 1500 hectares sécurisés.
Alors votre livre, c'est aussi un coup de gueule contre les scénarios catastrophes, le pessimisme ambiant et les études des scientifiques. Hein, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les scientifiques assis derrière leurs ordinateurs, le nez dans leur base de données. Vous vous dites, au lieu de théoriser, il faut agir.
Oui, alors évidemment que ces études sont importantes, les données sont importantes, mais aujourd'hui, dans plein de scénarios, on a déjà assez de données et assez d'infos pour agir. Et aujourd'hui, on a besoin d'agir. Ce ne sont pas les scientifiques avec leur fichier Excel qui vont faire taire les tronçonneuses et les fusils. Ce sont des actions pragmatiques où on fait des réserves, on se retrousse les manches, on patrouille. Et c'est ce qui manque cruellement. Quand 80% des acteurs de la conservation lancent des alertes ou étudient, c'est bien, mais c'est étudier l'extinction des espèces. À un moment donné, il faut faire quelque chose.
Et vous ne vous privez pas d'égratigner les grandes ONG comme le WWF. Que leur reprochez-vous exactement ?
Je suis parti en Indonésie comme jeune adulte, j'avais 18 ans, donc avec plein de messages de ces grandes organisations qui m'avaient alerté, qui m'avaient sensibilisé, donc c'est bien. Mais pour moi, j'imaginais qu'à côté de ces discours, il y avait des choses réelles sur le terrain. Aujourd'hui, ça fait 24 ans que je suis à Bornéo et j'observe avec une stupéfaction énorme que les acteurs de terrain qui agissent pour sauver, quand je dis réellement sauver, s'engager sur la durée pour sauver, ce sont pas ces grandes ONG. Donc oui, il y a une énorme frustration quand elles parlent énormément, quand elles font énormément de marketing, elles ont le droit de le faire, mais il faut qu'à côté, il y ait des choses concrètes. Et c'est ce que je reproche énormément. Vous allez avoir d'énormes et d'excellentes études de ces grandes ONG sur le nombre d'orang-outans, par exemple, qui restent à Bornéo. Donc, on documente l'extinction de ces espèces sans de réelles actions.
Et vous dites que les médias ont la fâcheuse manie de relayer ces mauvaises nouvelles et d'ignorer les bonnes. Vous envoyez plein de bonnes nouvelles sur le retour des animaux dans la nature.
Évidemment, Effectivement, d'abord, la nature est beaucoup plus résiliente que ce que l'on peut croire. Mais surtout, oui, effectivement, ce qui va être repris dans les médias, ce qui marche, c'est de dire que c'est l'apocalypse, quoi. On arrive au bout, ce sont que des mauvaises nouvelles, la dégradation de la biodiversité. Je ne nie en rien ces problématiques environnementales. Mais à côté de ça, il y a des choses qui marchent. Il y a des très bonnes nouvelles. Quand on parle du tigre, par exemple, du tigre en Asie, que ce soit en Inde, que ce soit en Chine, que ce soit en Russie, les populations augmentent. Ça ne veut pas dire que tout est beau, tout est rose, mais pourquoi se priver de ces bonnes nouvelles ? Plus proche de chez nous, on parle du lynx très récemment. En 2021, le lynx ibérique au Portugal, il y a eu 70 naissances rien qu'en 2021. C'est des bonnes nouvelles. Le gypaète barbu, un vautour qui vit ici en France, après 150 ans d'absence, il recommence à nicher maintenant dans le Vercors grâce à des initiatives de conservation actives.
Et il est réapparu aussi au Maroc ?
Et ça, c'est une autre espèce de vautour. Mais effectivement, les vautours sont de retour au Maroc, en Californie, où il n'y avait plus de loups depuis très longtemps. Ils sont de retour. Enfin, il y a toutes ces bonnes nouvelles. La population de baleines à bosse qui est revenue à son état initial avant la chasse à la baleine par l'Afrique du Sud. Donc tout ça existe. Ça ne veut pas dire, ça ne veut pas nier que toutes les problématiques, mais c'est bien aussi. Et quand on est acteur de terrain, qu'on va au charbon tous les jours pour essayer de sauver la biodiversité, on regarde aussi ce qui marche à l'autre bout du monde et ce qui peut être réplicable dans nos autres zones. Et on a besoin d'être optimiste, on a besoin de regarder vers la lumière parce que sinon on ne se donnera pas les moyens d'être efficace. Donc pourquoi, quand on prend trop de hauteur, et c'est ce que font les grandes ONG aujourd'hui dans leur communauté de presse, puisque quand elles font une campagne pour lever des fonds, par exemple, elles passent par une agence de com, et la com nous dit qu'il faut faire peur pour ensuite taper au porte-monnaie. Pardon d'être direct, mais c'est ça. Et c'est regarder les choses de très très haut. Mais les acteurs de terrain comme moi peuvent voir que concrètement, à l'échelle locale, à l'échelle du paysage, on peut voir les problématiques et on peut voir aussi les solutions. Chani Calaouette face à l'industrie de l'huile de palme, c'est rien. C'est David contre Goliath. Mais face à une compagnie précise, sur une commune précise, avec un village partenaire de Calaouette, eh bien là, on va pouvoir sauver la forêt.
Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la forêt. Vous dites que si ici, on essaye de convaincre les gens de donner de l'argent pour sauver la forêt amazonienne ou la forêt indonésienne, il faut se méfier parce que ça ne concerne pas un endroit précis, un problème précis.
Exactement, parce que vous avez affaire à quelqu'un qui est peut-être pas forcément de terrain. La personne de terrain arrivera avec des informations beaucoup plus précises.
Mais vous n'avez pas peur qu'en disant qu'on méconnaît ou qu'on sous-estime la résilience de la nature, les gens qui ne se soucient guère d'écologie se sentent encore moins concernés ?
Alors, déjà, moi, je vais avoir un discours qui est très peu culpabilisateur. C'est trop facile de dire à la personne qui a trimé toute la journée, qui rentre chez lui, qui allume la télévision, on lui dit « la planète va mal » et en plus, c'est ta faute. Donc, moi, je ne suis pas du tout dans cette démarche-là.
C'est contre-productif.
C'est contre-productif et surtout, en France, le français moyen, si on lui donne le choix d'avoir exactement le même produit avec le même prix, il va prendre effectivement celui qui détruit pas l'environnement et les décisions sont beaucoup plus hautes. Donc, je ne vais pas culpabiliser, même si effectivement, si tout le monde y met du sien, ça sera beaucoup plus facile. En tout cas, dans mon approche de terrain, de conservation active et pragmatique, moi je vois qu'on peut faire la différence dans plein de scénarios et que tous les acteurs aujourd'hui qui se disent acteurs de la conservation, ils doivent faire ce switch, arrêter de théoriser, arrêter de nous faire croire que la conservation c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Ça ne l'est pas. Il suffit de sauver, protéger par tous les moyens.
Okay, guys, balik lagi di Kalit Radio 99,1 FM.
Iya, ya? Dan masih di Ngabuburit
in the air. Nah, sore ini kita kan tadi udah mention ya kalau kita dapat makanan yang enak-enak.
Ce qu'on entend, Shani, c'est la radio que vous avez créée en 2003 à Bornéo, Radio Calaouette, qui est vite devenue la radio numéro 1 de la province, sans être pour autant une radio entièrement focalisée sur l'environnement. Ça, vous ne vouliez pas.
Betul, itu Radio Calaouette dalam bahasa Indonesia. Je vais vous le faire en indonésien. Ah, vous mettez dans le bain, moi j'y vais. Hein. Oui, le but de cette radio, c'est évidemment de sensibiliser et surtout de ne pas faire tourner le message en vase clos. Parler à des gens qui s'intéressent déjà à l'environnement, ça ne m'intéresse pas, justement. Moi, je veux arriver à toucher la personne ou le gamin qui, a priori, se fiche de l'environnement et qui chope mon message. Donc, il faut faire une radio assez sexy, entre guillemets, avec de la musique, de la libre antenne, tout ce qu'on peut avoir sur une radio pour les jeunes générations, mais quelle que soit l'émission, quelle que soit l'heure de diffusion, des spots qui, eux, sont chocs sur les animaux, une hotline pour nous appeler si jamais ils voient un souci avec des animaux sauvages, la nature, etc. Et c'est ce qu'on fait, on a fait pendant 19 ans avec la radio Calaouette. Alors, c'est vrai qu'en Indonésie, ça commence à s'essouffler.
Oui, vous le dites dans le
livre.
Vous le reconnaissez, la radio s'essouffle. Pour quelles raisons ? À cause d'Internet, des réseaux sociaux ?
C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, la jeune génération va regarder des vidéos sur YouTube et donc nous, on doit se réinventer parce qu'on on doit être au plus proche de ces jeunes générations-là et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est suivi par des centaines de milliers d'abonnés sur les chaînes YouTube, que ce soit la mienne ou celle de mon fils, où on va diffuser ces messages-là d'une autre manière parce que la radio, c'était un moyen de s'inviter dans l'intimité de ces Indonésiens et d'en faire des alliés. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose à une échelle même nationale, puisque justement l'Internet et les vidéos nous permettent de toucher tous les Indonésiens, alors que la radio était une radio locale. Donc voilà, on s'adapte avec le temps, mais l'important, c'est de communiquer avec les gens là-bas. C'est facile de boycotter l'huile de palme ici ou de dénoncer l'huile de palme en Europe, mais il faut parler là-bas avec les Indonésiens, parce que le fait d'être soutenu par cette énorme communauté, c'est un bouclier et une arme, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus puissant lorsqu'on veut dire quelque chose, mais aussi si on essaie de nous intimider, on a aussi une protection de cette communauté.
Et vous en avez fait l'expérience lorsque vous avez eu des problèmes en commençant à acheter les parcelles de la forêt de Doulan. On vous a poursuivi, on a tenté de vous infliger des amendes pour diverses infractions et vous avez gagné face au conseil traditionnel des Dayak, c'est ça ? Grâce au soutien de la population du village.
Ben, c'est ça, alors pour faire simple, effectivement, des personnes qui vont se dire œuvrer dans l'intérêt des communautés locales. C'est très facile pour nous essayer de nous extorquer de l'argent, mais quand effectivement sur place les populations nous soutiennent, donc viennent avec nous au rendez-vous et que le village est avec nous, ben voilà, ces personnes-là vont avoir des arguments un peu plus modérés et souples et ils arrêtent de nous faire des soucis. Donc la vraie clé pour l'environnement, que ce soit pour les animaux, que ce soit pour faire des réserves, c'est une démarche philanthropique avec les gens, avec le soutien des gens, qu'on arrive à faire la différence. Et c'est l'une des très très grandes leçons que moi j'ai apprises avec toutes ces années en Indonésie. Je suis arrivé en Indonésie pour la nature, pour les gibbons, pour les singes, et j'y suis resté parce que je suis tombé amoureux de Bornéo, je m'y suis épanoui en tant qu'homme, et ça peut pas être dissocié. On peut pas se battre pour l'environnement dans un pays qu'on n'aime pas, et c'est pour ça que je suis devenu indonésien aussi, et c'est extrêmement important, quoi.
Mais même si vous êtes devenu indonésien, même si vous parlez la langue, même si vous avez fondé une famille sur place, vous êtes toujours considéré quand même comme l'illuminé blanc, comme vous définissez parfois.
Je serai toujours le blanc de service parce que voilà, je j'arriverai pas à devenir indonésien physiquement.
Mais rend le combat plus compliqué ou paradoxalement peut-être plus facile.
Ça va dépendre des situations. Ce qui aujourd'hui rend le combat beaucoup plus facile, c'est que les gens me connaissent. On a une certaine notoriété en Indonésie. On a été exposé dans les médias. J'ai fait une émission de télé pendant 2 ans sur toutes les semaines. Donc voilà, ils connaissent. Et quand j'arrive dans un village, ils voient plus simplement le blanc. Ils Chani. Et ça, c'est une grande satisfaction pour moi, parce que dans beaucoup d'endroits, on n'a plus à se présenter, on n'a plus à montrer à quel point on est désintéressé dans notre démarche de protection de l'environnement, parce qu'il y a forcément des suspicions au début. Et on a créé Kalawet avec une notoriété suffisante pour éliminer toutes ces étapes-là et aller directement droit au but pour sauver. Et encore une fois, on le fait avec les gens. Donc, ils voient Chani, ils voient plus simplement le blanc de service. Mais bon, pendant longtemps, ça m'a touché parce que je voulais vraiment devenir indonésien à 100% et ça me faisait mal parce que vous savez, quand on dit blanc en indonésien, c'est boulé. Alors, ça faisait en plus cette connotation en français qui me pesait énormément. Et ça, c'est derrière moi parce que maintenant, aujourd'hui, on me voit encore une fois comme Chani. Et ça, quand dans la rue, on me dit Chani est plus boulé comme on faisait avant, ce qui est quand même le réflexe quand les Indonésiens voient des étrangers. Donc ça me remplit de bonheur. Et voilà, donc je suis content.
Et en 24 ans, est-ce que vous avez craint pour votre vie parce que votre combat dérange et empêche certains d'engranger beaucoup d'argent ?
Évidemment qu'en 24 ans, il y a eu des moments de tension, il y a eu des menaces, des attaques physiques, des menaces. Je me suis retrouvé à devoir évacuer ma famille pour les mettre en sécurité. Mais ça ne résume pas mes 24 ans.
Dites que ça représente 1% peut-être
même pas,
de votre
même pas.
Vie en Indonésie.
Et de toute façon, je renverse toujours ces arguments-là en disant si on a des ennemis, c'est justement parce qu'on est efficace. Et en Indonésie, si vous êtes copain avec tout le monde, ça veut dire que vous ne faites pas grand-chose. Donc oui, on est vigilant. J'ai un peu signé pour. Alors c'est vrai que quand on a une famille, maintenant j'ai des enfants, tout ça, on réfléchit un peu plus longtemps. Ce n'est pas forcément évident. Mais voilà, on se protège et effectivement, oui, il faut faire attention.
Alors vous avez créé, vous l'avez dit tout à l'heure, votre chaîne YouTube. Vous aimez faire de petites vidéos. Est-ce que c'est parce que vous aimez faire ça ? Vous vous êtes intéressé tout à coup à la vidéo ? Ou est-ce que vous avez quand même besoin de faire ces vidéos pour aussi récolter des fonds. Parce que vous parliez tout à l'heure de la philanthropie nécessaire pour faire exister le projet Calaouette. Donc vous avez besoin d'être vu, d'être regardé, d'être liké pour que les gens ensuite vous envoient de l'argent et achètent aussi des parcelles de la forêt via Calaouette.
Bah, les deux. C'est-à-dire que j'ai compris dès le début que justement l'illuminer tout seul dans la forêt arriverait à rien et que je devais être soutenu par les gens, donc ça passe forcément par les médias à un moment donné. Donc pour la différence peut-être de Calaouette par rapport à d'autres ONG dans la manière de communiquer, c'est avec les vidéos, si vous allez voir sur ma chaîne YouTube, toutes les vidéos du lundi sont en français, donc s'adressent principalement à d'autres donateurs, même si les Indonésiens peuvent le voir avec des sous-titres en indonésien. Les vidéos du jeudi sont totalement en indonésien parce que je m'adresse à mes abonnés, 98% de mes abonnés par exemple sont indonésiens, ne sont pas du tout occidentaux, donc c'est vraiment pour justement que les gens nous soutiennent, qu'on agisse ensemble sur le terrain. Mais effectivement, quand on fait du concret, justement, on a des choses à montrer. Donc on peut se permettre de faire autant de vidéos parce qu'il y a tellement de choses qui se passent et c'est une preuve concrète pour nos donateurs qui les rassure. Regardez à quel point on est concret. On a des animaux. Quand je vous parle de gibbons, ils sont là. Quand je vous parle de forêt, elle est là. Nos patrouilles, tout ça. Et c'est un très grand argument justement pour contrer tous ceux qui nous parlent de conservation depuis des décennies. Et qu'à part la plaquette plastifiée, il n'y a pas grand-chose derrière, quoi. Et le meilleur moyen, c'est de mettre tout ça en image. Alors ça me plaît aussi, parce que j'aime bien tout ce qui est image. Et c'est extrêmement important de rendre les choses concrètes pour la personne qui est à des milliers de kilomètres.
Et vous écrivez même « Nous devons devenir des influenceurs ».
Mais bien sûr. Pourquoi on devrait faire appel à des influenceurs qui peut-être se fichent complètement de l'environnement pour essayer de créer un partenariat pour faire en sorte qu'ils relaient notre message ? C'est à nous d'être assez sexy, encore une fois, entre guillemets, pour que justement, on le devienne l'influenceur. Et que les jeunes qui nous regardent se disent « Waouh, il a une vie géniale en sauvant l'environnement, j'ai envie de faire ça. » Et là, on aura gagné. Et là, on aura gagné. Donc, c'est à nous. Moi, je ne me mets pas dans une case. Donc, activiste, influenceur, YouTube, tout est bon à prendre si c'est pour la bonne cause. Et c'est vraiment ma philosophie.
Alors, quand vous venez en France pour faire la promotion de votre dernier livre, en l'occurrence, vous rencontrez beaucoup de lecteurs ou de potentiels lecteurs. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent ?
Les questions, c'est justement celles que vous avez posées tout à l'heure sur ma sécurité. Parce qu'ils m'imaginent comme ça, être face à des ennemis en permanence, même si c'est le cas. Mais sur place, pour moi, c'est une vie quand même assez douce, dans le sens où je suis exactement à l'endroit où je voulais être quand j'avais 12 ans. Je vis mon rêve, quoi. Donc, c'est pas tous les jours facile, évidemment, mais j'ai cette chance-là. Donc, les questions, c'est souvent sur ce mode de vie qui leur semble complètement fou. Et parce que justement, je ne rentre pas dans une case. Donc ça suscite beaucoup d'interrogations et c'est normal.
Et vous leur dites, vous aussi, vous pouvez réaliser vos rêves.
Oui, surtout sur les jeunes qui viennent me voir. Surtout, vous pouvez réaliser vos rêves, garder espoir. Il y a encore tellement de choses à sauver. On n'a jamais eu autant besoin de vous. Parce que ma plus grande peur, c'est que le gamin de 12 ans que j'étais, quand je rêvais de partir à l'autre bout du monde pour sauver les singes, eh bien celui d'aujourd'hui, en 2022, il n'ose pas y aller. Parce qu'on lui a, dans les médias, dit en permanence que c'était foutu. Et c'est ma plus grande peur parce qu'encore une fois, on n'a jamais eu autant besoin d'eux sur le terrain.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Shani, d'avoir été l'invitée de C'est pas du vent. Bon retour en Indonésie et bon courage pour votre combat qui va continuer. Je renvoie nos auditeurs à votre livre « Hâte d'être à demain pour continuer à sauver » paru aux presses du midi et à votre site calaouette.org, calaouette, K-A-L-A-W-E-I-T. Merci à François Porcheron à la réalisation. À demain et d'ici là, portez-vous bien.